RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot,
les grandes gueules.
Venez prendre la parole avec les GG, avec les grandes gueules. C'est la deuxième heure qui commence en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, le canal 23 de la TNT, avec Laurent Vartan-Martinez, sophrologue, Charles Consigny, avocat, Didier Giraud, avocat, agriculteur, ouais, en Saône-et-Loire. C'est le meilleur avocat du monde agricole, l'ami Didier, depuis 17 ans maintenant avec nous dans les GG, dans les grandes gueules. C'est la deuxième heure des grandes gueules. On va parler de la moitié des jeunes qui refuseraient un emploi sans télétravail. L'insécurité, les villes moyennes de plus en plus touchées aujourd'hui par les règlements de compte, par le trafic de drogue, par les cambriolages, par les atteintes aux biens et aux personnes. Mais on va commencer par s'intéresser à la dette française et aux moyens de la rembourser. Comment rembourser la dette ? Est-ce qu'il faut travailler plus longtemps ou est-ce qu'il faut rogner sur les pensions de retraite ? La question est posé et on vous attend au 32-16.
Oui, alors ce qui est intéressant, c'est que la moitié des Français interrogés par l'IFOP souhaitent baisser les pensions des retraités afin de réduire la dette. Et les retraités eux-mêmes sont plutôt favorables.
52%, donc majoritaire, 52% des retraités assurent eux aussi que leurs pensions doivent être revues à la baisse pour contribuer à l'effort. Donc il y a une chose positive, c'est que les Français ont quand même conscience maintenant qu'il y a un problème avec la dette publique et qu'elle va peser sur les générations futures, donc il faut trouver des solutions et que l'effort doit porter avant tout sur le montant des retraites. Mais alors c'est marrant parce que ces mêmes Français ne disent pas on va travailler plus. Ça reste un tabou français, le fait de devoir travailler un peu plus longtemps peut-être pour nous désendetter. Et c'est amusant parce que souvenez-vous, Michel Barnier, l'éphémère Premier ministre, est tombé justement sur cette question, puisqu'il voulait désindexer les retraites par rapport à l'inflation. Le Rassemblement national était vent debout et il a été censuré. Bon, finalement, il n'y avait peut-être pas besoin de s'énerver, les retraités seraient assez d'accord.
Qu'est-ce que vous en dites, Charles ?
Quand on prend les dépenses publiques en France, l'énorme bloc à chaque fois, ce sont les retraites. Quoi qu'on prenne, que l'on prenne juste les dépenses sociales, que l'on prenne les dépenses globales publiques de l'État dans son ensemble, à chaque fois, il y a un énorme rectangle, un énorme carré, c'est les retraites. Donc, il faut bien faire quelque chose. Moi, je suis en revanche assez consterné de voir que ce qui l'emporte, ce serait d'avoir une retraite plus faible, mais de quand même s'arrêter de bosser le plus vite possible. Je pense qu'il y a quand même un petit sujet sur l'appétence des Français au travail, mais je crois qu'il faut faire preuve de courage sur ce sujet-là, que la classe politique ne l'a pas fait depuis longtemps parce que les retraités, c'est un électorat très courtisé, parce que ce sont des gens qui votent en masse, contrairement aux jeunes, et que donc on a beaucoup sacrifié les jeunes pour les retraités. On voit bien qu'aujourd'hui, la France, qu'est-ce que c'est sinon un système organisé pour assurer le confort des boomers. En réalité, c'est ça. On a tous croisé ces retraités qui partent en vacances aux quatre coins du monde à partir de 62 ans. Bon, ben non, mais moi, je suis désolé, je trouve ça consternant. Je pense que c'est consternant. Et donc, à titre personnel, je pense qu'il faut augmenter l'âge de départ en retraite et ou la durée de cotisation de retraite et pourquoi pas baisser certaines pensions, désindexer, etc. Faire le boulot avec courage. Ça me paraît indispensable.
Laura ?
Oui, alors écoute, moi je suis très contente qu'on ait ce sujet aujourd'hui puisque ça a été le sondage dont on est en train de parler a quand même été demandé par Mickaël Migarès qui animait la Nuit de la Liberté qui est, on est plusieurs libéraux à se retrouver et moi j'ai trouvé ça hyper... Alors moi je le lis pas du tout comme toi Charles, le sondage et on l'a décortiqué pendant 3 heures de débat où on était plusieurs libéraux. Alors il y avait vraiment tout un panel. Il y avait des libéraux dignes de Milei. Moi, je suis plutôt une libérale sociale. C'est-à-dire que j'estime que dans le social, on peut inclure du libéral et créer des actifs en aidant des gens. Et je l'ai pas vécu comme ça. Au contraire, moi, je trouve qu'il faudrait arrêter cette hérésie qui est un âge pivot. L'âge pivot ne sert à rien. On fait un nombre de trimestres. Basta. Et ça suffit. Voilà. Et ça suffit. Comme ça, que tu commences à 14, que tu commences à 25. Bon, bah, t'as ton âge pivot.
Est-ce que la durée de cotisation, tu l'augmentes quand même?
Oui,
le nombre de trimestres.
Alors, je l'augmenterai. Et je pense que la plupart des Français sont quand même plutôt d'accord avec ça. Le Le sondage en est la preuve.
D'ailleurs, la gauche au pouvoir, François Hollande l'a augmenté, puisque c'est
donc, je veux
la
dire,
réforme Touraine qu'on a augmenté.
C'est la dernière réforme.
Le problème, c'est qu'on a un Parlement qui est persuadé de connaître la vérité absolue, alors qu'on voit tous les jours un peu plus qu'ils sont en décalage complet avec l'opinion publique. Oui, on a des retraités qui estiment, et on en a eu lundi sur scène, qui nous expliquait que, oui, peut-être qu'un retraité qui touche 6000 euros alors qu'il n'y a pas assez d'actifs, c'est pas cool. Ok, moi j'estime qu'avec de la croissance on peut régler tous les problèmes, c'est le principe libéral. Plus on a d'actifs, plus on a de croissance et plus on peut payer le social. Maintenant, il faut quand même admettre une chose, c'est que quand le modèle des retraites a été créé, c'était 1 million de retraités qui avaient une durée de vie à peu près de 10 ans, et que maintenant on est à quasiment 15 millions de retraités qui ont une vie de 20 ans,
une espérance de vie
de 20 ans. Donc on voit bien qu'à un moment donné, les calculs sont pas bons, Kevin. Donc, il va falloir trouver une solution. Alors, il y en a qui parlent de retraite par capitalisation. Pourquoi pas? Et pour éviter les vents debout, eh ben, proposons aux gens de choisir. Soit vous êtes au régime public. Donc, on arrête tous les systèmes, les régimes privés, le régime des fonctionnaires, le régime, tout le monde à la même enseigne.
D'accord. C'est 400 milliards, voilà. L'enveloppe des retraites.
Soit tu décides que c'est
la retraite des fonctionnaires
qui nous coûte le plus cher,
qui plombe les déficits
complètement.
Celle du privé est équilibrée. Hein.
Donc tu décides. Soit mon gars, t'es au régime public. Par contre, vu que vous allez peut-être être moins nombreux, moi je te garantis 1000 balles max. Après, si vous avez pas les moyens d'être au-dessus, c'est votre problème. Vous avez choisi une retraite publique. Maintenant, si tu décides la retraite par capitalisation, eh ben tu te la prends. Laissons les Français choisir. Arrêtons d'imposer. Arrêtons avec cet État nounou. On est tout à fait capable de réfléchir. Je veux dire, en général, les auto-entrepreneurs ou les entrepreneurs, on est déjà sur un système de capitalisation parce qu'on n'a pas le choix, puisque de toute façon, on n'est pas inscrit au système des retraites, au service général. Donc, laissons le choix aux Français. Soit tu capitalises, soit tu es au régime public et on verra ce qu'il faut. Tu regardes normalement quelqu'un qui travaille à peu près de manière tout à fait convenable, on va dire à les 45 ans, il peut par capitalisation en moyenne, vraiment en moyenne, quand on pense que le salaire moyen c'est 2005, donc c'est calculé là-dessus, il peut se faire une retraite grosso modo à hauteur de 5000 euros. On est bien loin de la secrétaire qui a bossé à 5000 balles toute sa vie et qui se retrouve avec 1008 de retraite.
Didier, parce qu'il y a une partie du pognon qui va dans la gestion du système.
Mais c'est ça.
Enfin, aujourd'hui, on est en train d'essayer, coûte que coûte, de faire pérenniser un système par répartition dont on sait que la prochaine réforme, elle sera déjà obsolète le jour où on arrive à la faire passer.
C'est ça.
Voilà. La démographie fait que... Donc, faut qu'on abandonne ça. Alors... peut-être pas brutalement, mais progressivement, pour aller vers un système de capitalisation. D'ailleurs, je pense que les jeunes aujourd'hui ont complètement en tête que la retraite, eh ben, ils se la feront s'ils arrivent à mettre du capital de côté. Voilà, tout simplement. Et derrière ça, dire aujourd'hui, donner le choix aux retraités entre travailler plus longtemps ou baisser ta pension, je pense que ça fera plaisir à une partie de mes collègues agriculteurs qui eux ont travaillé 45-50 et se retrouvent avec une retraite de base à 800 euros. Je pense que ça les fera plaisir qu'on leur propose que parce qu'ils ont pas assez travaillé on baisse la pension de base.
Je pense que c'est pas eux qui sont visés.
Non, mais ça j'ai bien compris, Olivier, mais je pense qu'aujourd'hui on est au bout d'un système et il faut en changer, quoi.
Et puis
les jeunes qui rentrent dans la vie active aujourd'hui, ils sont complètement clairvoyants sur le fait qu'ils n'auront pas de retraite par répartition. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi nos politiques s'écharpent pendant des mois là-dessus. Alors que ça ne sert à rien. On sait que la réforme qui va passer, elle sera obsolète.
Ce qui est intéressant dans le sondage, c'est que les Français majoritairement sont favorables à l'idée quand même que le niveau de vie des actifs doit être supérieur à celui des retraités.
C'est normal.
Et là, le problème, c'est que ça s'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un niveau de vie des retraités qui devient meilleur que des actifs.
On est au sondage en disant on peut baisser les pensions de retraite plutôt que de travailler plus. Ils espèrent toujours que ça démarre au-dessus d'eux.
Oui, mais non, ce que je veux dire simplement, c'est que il faudrait pas non plus que on appauvrisse tout le monde. C'est-à-dire que c'est pas parce que les actifs sont pas assez bien payés qu'il faut que les retraités perdent aussi du pouvoir d'achat. Et je trouve qu'on a quand même une vision. On a quand même une vision où tout le monde doit être maintenant. C'est la France des smicards, quoi. En fait, tout le monde doit avoir des petits salaires. Ce qui est important, c'est que ton voisin ne touche pas plus que toi. Ben non, ce serait bien que les actifs puissent être aussi bien lotis que les retraités, et qu'on leur permette de mieux gagner leur vie. Enfin, j'aime pas cette façon de mettre en concurrence les gens. Les retraités, ils ont bossé aussi.
Comme tu dis, 400 milliards, j'aimerais bien savoir combien il y en a pour le fonctionnement du business.
On a Christine qui veut intervenir parce que quand on a lancé notre sujet, notre discussion, Christine, ça l'a mise en pétard. Bonjour Christine.
Bonjour, bonjour Alain et bonjour à toute l'équipe. Et
bonjour Christine. Alors, vous avez bondi tout de suite au 32-16.
Ah oui, le pauvre, le monsieur du standard, il en a pris plein la tête parce que je suis scandalisée.
Pourquoi ?
Mais je suis scandalisée parce qu'on tape toujours sur les retraités, mais qu'on mette au travail tous les jeunes qui ne veulent rien faire, nom d'un chien. On donne tout un tas d'argent aux chômeurs. Écoutez, moi j'ai également... J'ai hérité de mes parents un logement à Noisy-le-Sec dans le 93. Mais quand je vois tous ces jeunes en âge de travailler le lundi, le mercredi au marché, par exemple, hein, qui ne foutent rien, qui sont aux terrasses des cafés, hein,
mais
on les met au travail, nom d'un chien.
Peut-être en télétravail.
Ils ont le temps de faire marcher. Il y a qu'à regarder le sujet d'après, la raison, Christine.
Je viens d'entendre également que les jeunes ne veulent pas accepter d'emploi s'il n'y a pas de télétravail.
On va en parler
forcément,
tout à l'heure.
Hein, ouais. Comme ça, on accommode.
Mais Christine, au marché. Christine, vous avez fait quoi tout au long de votre vie active?
Moi, j'ai travaillé pendant 41 ans et demi, monsieur.
En tant que quoi?
En tant que j'étais chef de service dans une grosse entreprise, hein, j'ai cotisé pendant 41 ans et demi, j'estime que j'ai mérité ma retraite.
De combien?
Alors on
n'a
qu'à réquisitionner tous les gens qui veulent qui sont en âge de travailler et les mettre au boulot, nom d'un chien. Ils ne veulent plus travailler chez nous en France maintenant.
Elle est de combien votre retraite aujourd'hui?
Elle est de 2200 euros, monsieur. Et j'ai du mal maintenant, hein, entre l'héritage que j'ai eu de mes parents, donc la taxe foncière. Alors, et c'est pareil, la taxe d'habitation. Alors, les locataires n'en payent pas.
Oui, c'est vrai. Oui, oui.
Et Christine,
moi, je suis désolée, mais pourquoi ils sont logés gratis, eux, alors? Ils ont juste l'électricité et le gaz à payer, quoi. C'est
Christine,
tout. Et
voyez ça? Voyez, moi, on entend Christine, c'est le risque. Avec ce genre d'études, c'est qu'on dresse les uns contre les autres. C'est-à-dire, ça va être le match retraité contre les jeunes.
J'entendais ce que vous disiez. C'est vrai. Mais justement, pourquoi est-ce que c'est toujours nous, les retraités, qui, mais à chaque époque, il y a des avantages et des inconvénients. J'ai eu peut-être la chance de naître à une époque où, mais moi, j'ai commencé à travailler, je travaillais 40 heures par semaine. Je suis désolée.
Oui, moi, par exemple, Christine, bonjour déjà.
Bonjour.
Moi, je pars du principe que là, la seule manière de régler le problème des retraites, tout de suite maintenant, pour des gens comme vous, par exemple, c'est d'augmenter la croissance de notre pays. C'est de libérer les entreprises pour qu'elles puissent embaucher, comme vous le dites, tous les jeunes, etc. Plus d'activités.
C'est de rapprocher le net du brut.
Exactement. Plus d'actifs, on libère l'économie. En revanche, vous pouvez peut-être admettre, avec toute votre bonne foi que je suis persuadée que vous avez, que le système actuel, alors je suis d'accord avec vous, c'est pas vous qui devez le payer. C'est-à-dire, c'est pas vous qui devez être lésé dans l'histoire. Mais on peut quand même tout de même réfléchir avec du bon sens en se disant que le système actuel n'est pas pérenne, il ne peut pas continuer. Je le disais tout à l'heure.
On n'est pas responsable.
C'est ce que je dis, c'est-à-dire que là il faut réfléchir à, et c'est pour ça que je dis,
on vient à l'anticipation.
Exactement, d'anticipation toujours. Là c'est pas à Christine de payer, c'est pas à ma grand-mère de payer. Nous avec mes parents on aide mes grands-mères, donc on sait que c'est compliqué. J'estime que c'est pas à eux de payer.
Non, mais ce qu'on
on
a
leur
pas...
a promis
non,
un truc, etc.
Ce qu'on n'a pas expliqué suffisamment aux Français. C'est que il y aurait de moins en moins d'actifs pour de plus en plus d'inactifs, puisque on voit la pyramide des âges.
Il le savait, Mitterrand.
Donc on reste.
Mais Mitterrand, il le savait quand il a fait ça.
Bien sûr, mais il a fait une erreur historique en passant la retraite de 65 à 60 ans. Parce que c'était allé à l'encontre du sens de l'histoire. On voit bien que on sera dans un pays de plus en plus vieux, avec de moins en moins de jeunes qui vont travailler, et comme le système repose sur le travail des jeunes pour financer les vieux, ça va craquer.
Mais
ça, les politiques auraient dû préparer le terrain.
Mais les gens doivent aussi comprendre que la retraite par capitalisation, c'est pas un gros mot. La retraite par capitalisation, c'est pas un gros mot. C'est pas un truc de riche. C'est juste que au lieu de donner 25% de ton salaire,
tu peux pas tout payer par la capitalisation.
Non, c'est pas ça que je dis. C'est que la plupart des gens pensent que la retraite par capitalisation, c'est la retraite pour les cadres sup, des gens qui gagnent bien leur vie. C'est pas ça du tout. Tu peux capitaliser. Tu prends 25% de ton salaire. Soit tu le donnes au régime public qui va faire sa petite vie avec et qui va payer la secrétaire qui gère, qui fait son truc pour la retraite et tout. Soit tu prends ces 25% de ton ton salaire, tu les fais, tu fais un placement avec un rendement entre 5 à 8% et ça va te ramener plus d'argent. Que tu sois la femme de ménage ou que tu sois le cadre supérieur, tu es plus gagnant en capitalisant qu'en confiant ton argent à l'État quand on voit ce qu'il en fait.
On a après le coup de gueule de Christine, on a David qui veut intervenir. Il est dans le Vaucluse. Christine nous a appelé de Reloir. Dans le Vaucluse, David, il est artisan. Bonjour, David.
Oui, bonjour.
Bon, bonjour. Vous avez entendu le coup de gueule de Christine. Hein. J'ai pas à revoir mes retraites. J'ai pas à payer pour la dette de l'État. Est-ce que c'est au retrait? Il faut travailler plus ou rogner sur les retraites, alors? Dites-moi. Ah,
il faut absolument pas rogner sur les retraites. Moi, j'ai 45 ans, donc je suis dans la vie active. Si on renie sur les retraites, vous savez, c'est un contrat qu'ils ont passé, ces gens, en quelque sorte. Donc, si on casse le contrat, dans ce cas-là, alors on peut casser n'importe quel contrat. Enfin, ces gens, quand même, ils ont quand même travaillé de bonne heure. Ils n'avaient pas toutes les machines, tout ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme facilité. Ils se sont cassés les reins et maintenant, on va leur dire, parce qu'on n'a pas su gérer votre argent.
Enfin, le contrat, on le change. Oui, ben, pardon. David, permettez-moi de vous contredire. Le contrat, on le change bien pour les actifs. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à travailler, la retraite, c'était 60 ans. Oui. Maintenant, on me dit 62 ans et ça sera bientôt 64. Oui. Quand j'ai commencé à travailler, il fallait cotiser 40. Maintenant, il faut cotiser 43. 42. Donc, on voit bien que les règles du jeu changent, et parce qu'il faut s'adapter.
On ne vous baisse pas. Mais c'est Monsieur Truchot, je suppose.
Oui, tout à fait.
Non, mais on ne vous baisse pas votre salaire, par contre, Monsieur Truchot. Imaginez demain, on vous dit, on va vous reboter votre salaire de 10%. Vous allez signer?
Non, mais en revanche, moi, ce que je me dis, c'est que je vais me faire avoir. Je pense que j'aurai une retraite qui sera rabotée, parce que comme c'est pas bien géré et que les politiques n'ont pas le courage de mettre les choses sur la table, eh bien, on rabote. Et l'idée de raboter les pensions de retraite, c'est pas une bonne chose, comme l'idée de faire croire aux Français que rien ne va changer, David, alors que le monde n'est plus le même que celui qu'on a vu en 1945 quand on a mis en place ce système.
Ah, mais je suis d'accord avec vous, mais moi, écoutez, moi, j'ai 45 ans, je suis un peu plus jeune que vous, j'imagine. Moi, je fais pas une semaine à moins de 60 heures. S'il fait moins de 60 heures, c'est pas possible, j'arrive pas à...
Oui, mais les artisans, vous bossez plus que les autres, je sais.
Non, mais je me plains pas, je me comprends.
Non, mais c'est,
pas
mais c'est une réalité. Oui, non, mais on est dans un pays où les artisans bossent 60 heures, pendant d'autres sont à 35 heures, ils du télétravail, ouais, c'est ça.
Mais ce qu'il faut dire aussi, ce qui est très important, on dit les caisses de la retraite est en déficit. Non, pas la retraite est en déficit. Certaines caisses de retraite sont en déficit. C'est ça qu'il faut
c'est celle des fonctionnaires qui pose problème.
Eh bien, exactement. Moi, je cotise ma caisse de retraite, elle est excédentaire. Monsieur Consigny, qui est avocat, si je ne dis pas de bêtises, sa caisse, elle est excédentaire également. Ouais.
Et les cadres, la complémentaire des cadres est très bien gérée, d'ailleurs, par les partenaires sociaux, alors, sans l'État. Et c'est très bien géré.
Parce que sans l'État.
Ouais, oui, voilà. Justement, David,
la déperdition, on sait où
après
elle est.
Après le coup de gueule de Laurence, et puis vous, David, qui venez d'intervenir, en fait, c'est un raz-de-marée là, au standard de coup de téléphone. Est-ce que effectivement,
on a réveillé tous les retraités,
raboter les retraites ou travailler plus longtemps? Vous savez quoi?
Il y a l'anti-boomer.
On va essayer de vous donner un maximum la parole. Au 32-16, dans un instant, on aura Amir
est très énervé.
Amir,
contre les boomers.
Il est énervé. Voilà, il a 39 ans. Il dit, les retraités ne comprennent pas vraiment la situation du moment. On va continuer la discussion
la
avec
des
vous. Il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Continue de discuter en direct sur RMC et RMC Story, la radio et la télé pour les GG, pour les grandes gueules, avec Laurent Vartan-Martinez, Didier Giraud, Charles Consigny. On vous donne la parole au 32-16 parce que cette interpellation là sur la base de ce sondage concernant le remboursement de la dette, cette interpellation sur est-ce qu'il faut rogner sur les retraites ou est-ce qu'il faut travailler plus longtemps, ça vous fait beaucoup réagir. On va vous donner la parole dans un instant, on sera en Gironde avec Paul, mais c'est Amir des Hauts-de-Seine qui veut discuter avec les GG. Bonjour Amir.
Bonjour Alain, bonjour Olivier.
On vous l'a déjà fait, j'imagine, vous envoyez la musique à chaque fois qu'on appelle Amir.
Oui, bien sûr.
Alors Amir, qu'est-ce que vous dites, vous?
Bah, moi je dis qu'on en a marre, nous les jeunes qui travaillons. Moi j'ai 39 ans, ça fait depuis que j'ai 17 ans que je travaille. J'ai rien gagné dans ma vie, j'ai même pas de quoi me changer de voiture, j'ai pas de quoi acheter un appartement ni une maison. Et j'entends des gens qui sont propriétaires, qui ont vécu une belle vie et qui viennent se plaindre maintenant qu'on leur demande un effort. Que je sache, ils ont élu plus de présidents que moi. Que je sache, si on en est là, c'est plus de leur faute que de la mienne. Moi, je me lève tous les jours, je vais au boulot. J'ai du mal à finir des mois, j'ai du mal à mettre mon carburant en ce moment. Donc, je me tue et je comprends pas pourquoi.
Pourquoi vous dites c'est de leur faute? Parce que c'est pas de leur faute. Ce sont les gouvernants qui ont
fait la loi. Si vous avez des difficultés, c'est pas de leur faute.
Ils ont bossé. Ah, ils les ont élus, d'accord.
Ah, ils les ont élus. Ils ont élu plus de présidents que moi, je pense.
Ils ont pas voté pour les bons, quoi.
Ah, bah, c'est leur choix à eux qui nous ont ramenés à là.
Est-ce que vous dites, vous, parce que les retraités, c'est les actifs comme vous qui payez.
Pas non plus.
Donc ce que vous dites, c'est baisser un peu, parce que moi, je me lève tous les jours, je bosse comme un ours, quoi, en fait. C'est
Oui, je bosse comme un ours et je gagne 1700 euros à la fin du mois. Il me reste rien du tout. Une fois que j'ai payé mon carburant, mon loyer, que j'ai fait des courses, il me reste quoi? J'ai aucun plaisir, j'ai rien du tout. Je travaille depuis que j'ai 17 ans et demi.
On a fait un pays de rentiers, en fait. Oui, le pays est bien pour les rentiers et les retraités.
Oui, mais en rognant sur les retraites, vous, du coup, ce que vous dites, ça vous libérera un peu de cotisation, un peu de salaire, quoi, en fait. C'est ça.
Exactement. Moi, j'ai rien contre les petits retraités, les gens qui touchent moins de 2000 euros. C'est pas de eux que je parle. On les voit quand on fait les courses. On voit des retraités qui sont en difficulté, qui ont du mal à acheter, ne serait-ce que des légumes. Moi, je parle des grosses retraites. On voit bien des gens qui changent de voiture souvent, qui ont
des gens
qui vont en vacances.
C'est des gens qui ont travaillé.
Bien sûr, il n'y a pas de problème.
Mais alors, c'est vrai qu'ils ont bénéficié peut-être d'un système plus favorable que vous, oui.
Ah oui. Et ils ont de quoi vivre. Je pense qu'ils ont assez d'argent de côté. Ils n'ont pas besoin d'avoir une grosse retraite non plus. Après, on voit très bien qu'ils mettent tous de l'argent de côté, qu'ils investissent en
après,
bourse.
Pardon, mais c'est une génération. Amir, c'est une génération aussi qui peut aider ses enfants, ses petits-enfants. C'est-à-dire que l'argent.
On a envie de nous les aider. Moi, je préférerais aider mes parents que mes parents y mettent. Je préférerais
mais non,
plus
mais la, l'argent. Mais non, mais là, moi, sincèrement, je préfère.
T'as raison, Amir.
Moi, je préfère. Non, je suis pas d'accord. Moi, je préfère qu'un grand-parent aide directement son petit-fils. Alors, peut-être pas vous, pardon. Qu'un parent aide son fils plutôt que ça passe par l'État. Parce qu'on part du principe que quand c'est l'État qui gère, c'est mieux. Ben non, la transmission directe, aujourd'hui, tu peux faire des dons, défiscalisés.
Mais là,
tu
as inversé le sens de l'histoire, Olivier. Parce que historiquement, le grand-père qui ne travaillait plus, on le gardait dans la maison, on s'occupait de lui, on le soignait, on lui donnait à manger. Et à un moment donné, c'était les actifs qui gagnaient le pognon, qui ruisselaient sur tous les inactifs de la maison.
C'est le grand-père qui était propriétaire de la ferme.
Oui, mais ça peut-être n'empêche que aujourd'hui ça s'est inversé quoi. Tu demandes à ce que c'est les gens qui ont vécu pendant les 30 glorieuses qui du coup ont amassé des richesses. Alors peut-être que c'était plus facile. Qui eux aident en étant inactifs aident ceux qui sont actifs aujourd'hui quoi.
Que l'État leur prenne l'argent parce que
non mais d'accord on est d'accord que l'État gère mal.
L'État va dire je vais prendre l'argent des retraités redonner aux actifs et tu sais très bien qu'il y aura de la déperdition.
D'ailleurs si on en est là c'est parce qu'il y a de la déperdition.
Si ça se fait directement
allez-y Amir.
Pour moi, le grand souci que j'ai, c'est que j'ai 39 ans, je suis actif, je suis marié, j'ai des enfants, et je suis jaloux de mes collègues qui partent à la retraite. C'est n'importe quoi.
C'est ça ce qui me rend fou. Mais vous devriez gagner mieux votre vie qu'un retraité, ça c'est sûr.
Quand vous voyez, je suis à 2300 en brut et 1750 en net, il y a un gros souci.
Le problème, il est là, Amir. Amir, je vous remercie d'avoir été avec nous et on va continuer la discussion. Salut Amir, du côté de la Gironde avec Paul qui est cadre. Bonjour Paul.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce que vous en dites? Vous êtes sur la même tonalité qu'Amir ou le coup de gueule de Christine tout à l'heure? Alors dites-moi.
Pas tout à fait, plutôt sur le coup de gueule de Christine. Et écoutez, ce que je trouve de plus en plus insupportable, c'est que ce type de sondage, s'il n'est pas expliqué, s'il n'est pas argumenté, il monte les Français les uns contre les autres et il crée des tensions. Ça c'est sûr et certain. Parce que faire demander aux retraités de payer, ok, mais sur quelle base? Quel barème? Qui va payer? Qui va pas payer? Et moi, personnellement, ça ne me dérange pas qu'un retraité touche 4-5 000 euros. S'il touche 4-5 000 euros, c'est parce qu'il a cotisé en fonction de ça. Il y avait un contrat avec l'État. Et je crois qu'on oublie de parler d'une chose essentielle, à mon avis. Moi, j'aimerais bien que l'on mette sur le banc des accusés, je mets le mot accusé entre guillemets, tous ces politiques depuis que la retraite est passée à 60 ans, toutes ces décisions politiques qui ont été prises et qui nous amènent aujourd'hui dans cette situation. Parce que moi, ce qui m'exaspère, vous comprenez, c'est que ces politiques qui sont arrivées au gouvernement, j'ai ce sentiment que avec beaucoup de condescendance, beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance, chacun voulait mettre sa patte dans l'histoire de notre pays en mettant en place des réformes qui n'ont ni queue mais ni tête. Et aujourd'hui, j'ai jamais entendu un politique dire qu'est-ce que ça va donner sur du long terme, sur du très long terme, les décisions que nous prenons aujourd'hui.
Et aujourd'hui,
on est dans une situation de faillite.
Oui et non, Paul, je suis désolé. C'est par exemple le début de la catastrophe des retraites. C'est Mitterrand qui la propose, c'est la retraite à 60 ans, c'est tout ça. Et c'est les Français, qui ont voté pour ça, pour Mitterrand. Mitterrand a été élu sur cette base. Mitterrand savait que s'il ne passait pas la retraite à 60 ans, il n'était pas élu. Et il savait que ça allait être la merde. Hein.
Il
savait dans 50 ans, 60 ans que ça allait être la merde.
Il l'avait dit d'ailleurs.
Et quand ensuite, permets-moi Charles.
Tu as raison, il avait dit, ça sera aux prochaines générations de régler le problème.
Exactement, ce sera aux prochaines générations de régler. Et les Français ont voté pour ça. Donc ils sont aussi un peu responsables. Et pardonnez-moi. excusez-moi une dernière fois, Paul, quand on demande aux Français de réfléchir à une réforme sur les retraites, c'est vent debout, tout le monde est dehors. Donc, malheureusement, je vois pas trop comment on peut avancer.
Je vois pas pourquoi.
Non, mais c'est-à-dire que déjà, à l'époque, quand on revoit les images de François Mitterrand, il est d'une démagogie incroyable. Il dit oui, la retraite à 60 ans pour vivre, pour que les Français puissent vivre, etc. Comme si avant la retraite, on ne vivait pas. Ah, c'est sûr, quand on voit les films de l'époque, les gens se bourrent la gueule au déjeuner, se font des restos de dingue en pleine semaine, travaillent jusqu'à 18h. Bah oui, tu regardes les films de Claude Sautet, enfin, ça vivait quand même. Première chose, et deuxième chose, franchement, simplement, les Français, il faut qu'ils sachent s'ils sont matures ou pas. On va être obligé de toute façon de faire quelque chose.
Petit correctif. Ouais, enfin, en 1980, l'espérance de vie d'un homme, c'était 70 ans. Tu partais à la retraite à 64 ans, tu avais 6 ans pour profiter de la retraite.
C'est vrai.
Et tu avais une génération, voilà. Aujourd'hui, tu avais une génération qui était encore
aujourd'hui, cassée. Aujourd'hui, c'est 40. C'était financé.
Oui, non, mais tu avais. Oui, bien sûr.
Bah oui, mais c'est pour ça que le système était financé. Aujourd'hui, tu meurs 20 ou 30 ans après.
Alors, voilà. Mais tu avais une génération qui sortait encore. Il y avait encore les mines. Il y avait encore les mines. Les mineurs, ils la voyaient pas, la retraite.
Voilà. Mais Alain, tu viens pointer du doigt le problème. C'est qu'effectivement, maintenant, tu pars en retraite à 62 ans, tu vis jusqu'à 90 ans. Donc t'as quasiment 30 ans bien à sûr. Financer.
Et c'est, non, mais c'est ce donc que je veux dire, c'était pour répondre pourquoi est-ce que on avait voté pour cette retraite à 60 ans en 1980, si tu veux, parce que t'as un avis qui était vraiment...
Les gens qui arrivent à la retraite en 1980,
tu as raison, les progrès de la médecine et autres font qu'on vit 10 ans de plus, plus de 10 ans de plus.
Les gens qui arrivent en retraite en 1980, ils n'avaient pas commencé à 25 ans comme maintenant.
Non, ils avaient commencé avant.
Ils avaient tous été à 14 ans au boulot.
Mais dès que tu demandes, juste on se pose les gars, on réfléchit deux secondes à comment on peut faire. Non.
Aujourd'hui, le problème, c'est
ça,
que
nos acquis sociaux. C'est pas la peine de retourner chercher Mitterrand dans son cercueil.
On a
qu'à voir comment ça s'est passé à la dernière réforme, c'est ce qui a mis des gens pendant 2 mois et demi dans la rue.
C'est ce que je viens de dire.
Pour que Notre ami Premier ministre, pour se maintenir, il enterre le projet.
La plupart des gens dans la rue, c'était des fonctionnaires.
On commence trop tard à travailler et on finit trop tôt.
Benjamin qui va en discuter avec nous. Bonjour Benjamin de Seine-et-Marne. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez entendu tous les points de vue. Amir, Christine, là on a Paul qui vient de parler. Et vous, qu'est-ce que vous en dites alors?
Bah exactement la même chose sur le même sujet qu'il y a un an où j'étais passé et il y avait déjà notre ami agriculteur sur le plateau. C'est qu'à un moment donné, sur un sujet comme ça, pour prendre de la hauteur, on est clairement dans une situation où malheureusement les retraités vivent mieux que les actifs. Donc il faut se poser les bonnes questions et trouver les actions pour que ça aille mieux. Parce que j'entendais tout à l'heure qu'aujourd'hui les retraités aident leurs petits-enfants. Génial, mais qui aidera les nôtres, nos petits-enfants? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'il ne faut pas regarder...
C'est pour ça qu'il faut changer le système, Benjamin.
C'est ce qu'il y a.
Vous avez un bulletin de vote.
Ah, il n'y a pas que ça. Je ne pense pas qu'il y ait que le bulletin de vote. Aujourd'hui, un bulletin de vote, ça va changer quoi?
Parce que
les projets ne sont pas les mêmes.
Benjamin... Dans un an, on va avoir un grand débat présidentiel. La réforme Macron, la deuxième, a été suspendue. Donc, il faut soit la reprendre, soit la changer. Donc, il va y avoir plein de propositions. Eh bien, vous verrez quelles seront les propositions démagogiques, celles qui s'approcheront quand même de la vérité. Benjamin, et puis après, vous choisissez.
Mais justement, c'est ça le sujet. C'est-à-dire que le sujet est tellement important, les décisions doivent être tellement drastiques que jamais personne ne les prendra. Et aujourd'hui, on est dans une situation où on coule.
Celui qui propose les vraies solutions sera jamais lui.
Allez-y,
Benjamin.
Donc c'est bien la faute des Français. Allez-y.
Aujourd'hui, j'entends parler des gens qui ont 1500, 500, 2000, 3000 euros de retraite. Mais c'est pas ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Aujourd'hui, comment on peut expliquer en France en 2026 qu'un retraité ouvrier vit mieux qu'un ouvrier? Comment un retraité cadre vit mieux qu'un cadre? Comment un retraité ETAM vit mieux qu'un ETAM? C'est ça qu'il faut regarder, c'est à iso-périmètre. C'est pas à dire, ah bah oui, mais moi j'ai cotisé. Non, déjà, tu as cotisé pour les retraites d'avant. Et nous, aujourd'hui, on est de moins en moins d'actifs et on paye de plus en plus de retraites. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut plus marcher.
Et quand on
a des gens qui viennent parler comme moi aujourd'hui, on prend des cas individuels, il y aura toujours des bonnes justifications.
Bien sûr.
Sauf qu'aujourd'hui, je pense que ce sujet-là doit être un sujet avec une prise de hauteur et des décisions drastiques qui ne seront jamais prises.
Eh bien justement, Benjamin, ce qui est intéressant, on va arrêter notre discussion, mais vous verrez dans 20 minutes avec notre invité vers quel système peut-être il faut aller, puisque Guillaume Casbarian, il vient, vous savez, c'est les moustaches les plus célèbres de France. C'était l'ancien ministre du Logement. Et Guillaume Casbarian, il vient de créer le parti.
De Didier, les moustaches.
C'est les deuxièmes moustaches les plus célèbres de France. Il vient de créer le parti de la liberté. Et il veut justement qu'on desserre les carcans pour que les Français puissent aller plus loin, puissent davantage vivre. Il veut un vrai parti libéral en France. Alors, est-ce que un parti libéral où on enlève les carcans à sa place dans le paysage politique, est-ce que ça peut l'emmener loin dans la carrière, Guillaume Casbarian? Il sera notre invité tout à l'heure à 11h. Alors justement, on a posé la question, remboursement de la dette, est-ce qu'il faut toucher moins au niveau de la retraite ou travailler plus? Bah, vous mettez travailler plus longtemps à 63%.
Bah oui, c'est pas des feignasses, nos auditeurs.
Voilà.
C'est des actifs.
Allez, dans un instant, les villes moyennes, l'insécurité qui monte partout, les cambriolages, les atteintes aux biens à la personne, les règlements de compte, ce n'est plus l'apanage des grandes villes, maintenant ce sont les villes moyennes. C'est au 32-16 qu'on en discute avec vous.
RMC, Alain Marchal, Olivier Truchot, les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, la radio, RMC Story, la télé, Laura Vartan-Martinez, Charles Consigny et l'ami Didier Giraud. On va évoquer avec vous maintenant la sécurité dans les villes moyennes. En fait, c'est le Figaro qui publie un classement dont on se serait bien passé, mais qui s'appuie sur les statistiques ministérielles de la sécurité intérieure. Ce sont les villes qui aujourd'hui sont le plus touchées par l'insécurité, ou plutôt les villes moyennes.
Oui, et quel est le point commun entre la ville de Cayenne et celle de Valenciennes? Eh bien, ces deux villes figurent dans le top 10 des communes de plus de 20 000 habitants, les plus touchées par ces violences physiques contre les personnes hors du cadre familial. Il y a aussi, bien sûr, les violences, alors ce sont les violences dans la rue, essentiellement, les violences dans les transports, les centres commerciaux, au travail ou à l'école. Il y a un climat de tension dans la société, on en parle souvent dans les grandes gueules. On pensait que c'était unique dans les grandes villes, mais malheureusement maintenant dans les petites villes. On pense que quand on va s'installer dans une petite ville, on sera peinard. C'est de moins en moins vrai, parce qu'on y retrouve aussi des agressions, des braquages, des cambriolages qui explosent dans ces villes, du trafic de drogue. Le narcotrafic maintenant n'est plus le monopole des métropoles. On le trouve également dans des villes moyennes, qui commencent donc à ressembler aux grandes et même aux... Il y a les petites communes, et ça peut-être Didier en parlera aussi, à la campagne, qui sont touchées par ce phénomène d'insécurité.
Didier Giraud. Oui, y a un vrai phénomène en milieu rural, entre autres autour du trafic de drogue, où les gens se disent que à l'abri des regards, ça sera plus discret, quoi. Il y a quand même aujourd'hui des choses, t'as quand même des endroits en France qui sont désertifiés, donc... où tu peux vivre un peu peinard. Alors c'est vrai que tu as moins de clients si tu veux en milieu rural, mais ça te permet d'organiser le trafic. Donc ça arrive. Il y a aussi le fait que l'isolement, les gens qui travaillent un peu loin, ça favorise les cambriolages. Après on est peut-être un peu moins sur l'agression aux personnes dans les transports en commun, parce que des transports en commun, il y en a pas chez nous. Donc voilà, après il y a quand même aussi tout le contexte global de la société, et entre autres un phénomène qu'on a beaucoup au milieu rural, c'est les incivilités, quoi, les dépôts sauvages, et je trouve que ça crée un climat global,
là, ça
un contexte où les gens sont dans un je m'en foutisme, et il y a plus de respect, du dépôt sauvage à l'agression physique, tu vois. Non, je trouve que tu franchis le pas, quoi, quand même.
Tu bosses à France Inter maintenant? Non, mais parce que on est sur la délinquance et la criminalité dans les villes moyennes. Didier nous parle du trafic de drogue des agriculteurs et des dépôts sauvages dans les campagnes. Excuse-moi, non, là, c'est global.
Le problème.
Ouais, enfin là, c'est pas tout à fait le sujet. L'insécurité dans les villes, il faut dire les choses comme elles sont. C'est le fait principalement du profil type des Kaira que nous connaissons bien, notamment s'agissant du trafic de drogue, des règlements de compte, des cambriolages, et malheureusement aussi les agressions gratuites dans les rues, etc. Il suffit d'aller en comparution immédiate pour le voir. C'est triste à dire, mais vous avez une surreprésentation d'hommes qui sont souvent de nationalité étrangère, en situation irrégulière. Les pauvres, souvent dans une situation de précarité énorme, mais qui se retrouvent dans les rues, à errer dans les gares, dans les centres-villes et à agresser des gens. Donc, faut dire les choses comme elles sont. C'est pas les agriculteurs.
Ça, ce sont les comparutions immédiates.
Oui, parce que les comparutions immédiates, vous avez la délinquance du quotidien. Oui. Donc, vous voyez très bien ce qu'il en est. Le gars qui vole un truc dans la rue, le gars qui agresse quelqu'un dans le métro.
Ouais, mais ça,
Charles,
c'est pas que dans les villes moyennes. Ça va jusque dans les villes de 10 000 habitants.
Il y a écrit insécurité, même les villes moyennes touchées.
Justement, c'est ce phénomène de
corruption. Je pense que ça va aussi plus loin que les villes moyennes.
T'as ce genre d'agression dans des villes de 10 000 habitants.
Je pense qu'il ne faut pas faire politiquement correct sur ce sujet de l'insécurité.
Il est devenu très politiquement correct.
Quand on se fait voler quelque chose, quand on se fait agresser.
Je ne vois pas en quoi j'étais politiquement correct.
Qu'on se reçoit, mais
ça va plus loin que ça, c'est tout.
Laura.
Je pense que tout le monde peut faire le constat. Enfin, moi, dans la ville où je suis, il y a des choses qui
combien
sont.
Combien d'habitants dans ta ville ?
Taverny, je sais pas combien on est. On doit être quoi, une 40 ?
Vous êtes deux, non, Florence Portelli et toi ?
Mais j'adore. Tu laisses ma mère rester tranquille, s'il te plaît. Oui, il y a des choses qu'on voit. Je trouve qu'on est quand même toujours plus protégé dans les petites et moyennes villes que dans les grandes métropoles. Maintenant, oui, je suis désolée. Pourquoi quelque chose? Enfin, on le sait que tous les fléaux, quels qu'ils soient, commencent dans les grandes villes et se déportent petit à petit. Et on va y arriver. Et tant qu'on aura un laxisme au niveau de l'État pour ce qui est de la répression, pareil, on n'anticipe pas, on gère le problème une fois qu'il est là, toujours pareil, on n'a pas d'anticipation, on gère les conséquences, à aucun moment on se préoccupe de la cause du problème. Tant qu'on continuera à donner sur 1000 balles, je ne sais plus, je crois c'est 5 centimes, un truc comme ça à la justice, le problème ne se résolvera pas. Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais c'est pas le sujet de la justice, les gars.
La justice, je veux bien, mais c'est pas une question seulement de moyens, la justice c'est aussi une question, de sévérité.
La question, c'est l'immigration de masse incontrôlée,
et la justice des mineurs.
La non-exécution des OQTF, parce que vous avez beaucoup de ces gens dont en fait la France a déjà expliqué qu'elle ne souhaitait pas les garder plus longtemps sur le territoire français.
Moi, les petits merdeux qui m'emmerdent, c'est pas les OQTF, ne sont pas exécutés.
C'est ensuite effectivement le sujet des racailles, mais c'est pas qu'une question de réponse judiciaire, parce que
si la justice des mineurs.
Si oui,
quand
peut-être,
tu vois que les cambriolages, par exemple.
Tout à fait.
Ce qui est un fait important qui est rapporté par Le Figaro, c'est que les cambriolages sont effectués par des gens de plus en plus jeunes et souvent des mineurs.
Et c'est pour ça que je parlais de la justice.
Et la primo-condamnation, enfin la juge Bruguière ici le dit souvent, la primo-condamnation n'existe jamais dans notre pays. Quoi.
Parce qu'on est sur un modèle. Ce sont des enfants, donc ce qui compte avant tout,
deuxième chance,
c'est la prévention, la deuxième chance, l'éducation.
Alors que la première condamnation devrait être exemplaire.
On ne fait rien pour valoriser cette deuxième chance. On leur dit, c'est pas bien. On les remet là où ils sont et on se dit, ils vont changer tout ça comme des
gens. On va aller dans la Loire, à Montbrison, retrouver Loïc. Bonjour Loïc.
Parlons-en.
Bonjour. Justement, vous voulez réagir en tant que restaurateur. Dites-moi pourquoi par rapport à cette insécurité.
Tout à fait. Ben en fait, avec ma compagne, on vient d'une ville qui s'appelle Saint-Étienne, hein, une grande ville quand même, une métropole de 5 000 habitants. J'ai habité dans des quartiers chauds dans cette ville, et franchement, ça a toujours été assez cool. Mm-hmm. Là, on a débarqué à Montbrison, qui est une ville de 15 000 habitants, et je suis impressionné par, quelque part, la violence de la ville, parce qu'aujourd'hui, je vois du trafic de drogue à ciel ouvert, et surtout des drogues dures, que je n'avais jamais vues à Saint-Étienne, quoi.
Comment ça se passe au quotidien? Qu'est-ce que vous voyez?
Ben on voit beaucoup. Alors il y a une communauté punk qui est assez importante à Montbrison.
Et je vois beaucoup encore de les gens.
On appelle des punks à chiens parfois. On en a ramassé un ou deux qui étaient mélange d'alcool et de drogue. On sait qu'il y a beaucoup de crack qui circulent. En face de moi, j'ai des logements sociaux où je les vois. Moi, quand je déboule le mardi à 4h30 du matin pour cuisiner avec des grandes 8-6 et pétard à la bouche, et puis ils me regardent en rigolant, quoi. Et des fois on a vu une altercation, on a une jeune punk qui s'est arrêtée, qui allait dans le restaurant d'en face, qui s'était fait ouvrir le ventre au couteau. On voit des choses qui moi me choquent dans une ville de 15 000 habitants.
Alors que vous veniez d'une ville qui était pas particulièrement tranquille, quoi.
Ah ouais, non, Saint-Thé, ça reste une ville qui est assez pauvre, et du coup, il y a quand même de la violence, de la racaille, mais j'habitais dans des quartiers chauds, un quartier chaud de Saint-Thé, ouais. Saint-Thé qui s'appelle le Cred Rock. Il y avait des tueurs en face de moi, j'ai jamais été embêté.
Là, mais ça là, veut dire, du coup, parce que ce qui est intéressant,
c'est quand même la déconvenue.
Du côté de Montbrison, ça veut dire qu'aujourd'hui, se promener dans la rue, on le fait pas de manière sûre.
Mais regarde, peu importe que ce soit lui ou mon type.
En journée, ça va parce que bon, ça cohabite quand même. Je pense qu'il y a quand même un respect où les gens, les drogués laissent les gens tranquilles. Ah bah mais la nuit, tout le monde me dit, faut pas se promener la nuit à Montbrison.
Donc, enfin, c'est dingue. Donc en fait, vous débarquez à Montbrison. Ouais, vous débarquez à Montbrison, pensant être tranquille avec votre compagne, et vous dites c'est pire.
Ah ouais, vous voyez, bah déjà les gens au faciès, vous dites quoi. Il est pas à jeun, et puis ce qu'il prend, c'est pas, il fume pas juste de la marijuana, quoi. Il y a quelque chose de plus derrière.
La drogue.
Et on voit, ouais, il y a beaucoup, les trois quarts des commerçants avec qui on en parle nous disent, ouais, bah, il y a du crack, il y a un peu d'héro qui circule, il y a des drogues dures, quoi.
Ah bah justement.
Et puis régulièrement, on voit passer devant le resto des dealers qui vont et qui viennent toute la journée, quoi.
Alors attendez, Loïc, parce qu'on a un policier municipal, Dimitri, qui nous appelle. Bonjour, Dimitri.
Oui, bonjour.
J'imagine que vous n'êtes pas surpris par ce que vient de dire Loïc. Et qu'est-ce que vous pensez de ces villes moyennes touchées par cette délinquance aujourd'hui, alors?
Bah, c'est ce que j'expliquais en antenne tout à l'heure avec votre collègue qui m'a accueilli au téléphone. En fait, c'est quelque chose de tout à fait avéré. Hein. Maintenant, j'ai eu cette chance d'avoir pu travailler en région parisienne, donc dans des communes de 50, 60 à 100 000 habitants. Depuis peu, bah, je suis sur une autre région où je travaille pour des villes de 10 à 15 000 habitants, et ça se voit de manière exponentielle. On ne voit que ça. On parlait de sentiment d'insécurité de par ma fonction d'agent de police de proximité. Je peux vous garantir que non, c'est plus qu'un sentiment. On le voit, les gens sont de plus en plus méfiants. On a vraiment même sur les petites communes, de la délinquance de passage, qu'on appelle la délinquance.
Quel type de délinquance ?
Alors ça va de tout, on peut avoir de ce qu'on appelle du VPE, hein, donc du vol par effraction. Nous, ces derniers temps, c'était beaucoup des vols de pièces de véhicules, notamment certains véhicules qui sont très faciles à voler, où les gens le matin se lèvent pour aller au travail, malheureusement ils découvrent que la moitié de leur véhicule, des fois les roues, le moteur, l'habitacle même par moment.
Ah oui.
Alors prend 5 à 10 minutes, grand maximum, ça va très vite, et c'est très compliqué effectivement, même
quand j'ai mis des roues spéciales, pour de vrai, sur ma voiture, j'ai mis des écrous spécial sur les jantes pour ne pas me les faire
comme il y en a plusieurs.
Des écrous, oui, pardon.
Oui. Ah bon?
Parce qu'on a retrouvé dans mon village du Jura une voiture sur des parpaings.
Des osages,
il n'y a pas très longtemps. On lui avait pris les roues.
C'est dingue, ça.
Mais oui.
Même avec des écrous spéciaux, hein, ils y arrivent de toutes les façons. Quand ils sont déterminés à le faire, s'ils veulent percer, ils percent. Enfin, je veux dire.
Et vous les retrouvez, Dimitri, quel est le profil de ceux qui font ça?
Alors, on a de tout. Honnêtement, on a de tout. Alors, c'est vrai que souvent, on a souvent tendance à dire que ça vient aussi beaucoup de jeunes qui viennent et qui sont issus d'immigration. Moi, pour le coup, en tout cas, dans la circo où je travaille, je trouve de tout. J'ai trouvé des gens qui volaient des pièces, qui étaient quasiment les voisins même des mêmes gens qui avaient été victimes de ces vols.
Sympa.
C'était vraiment du culot.
Après, tu retrouves tes roues sur la voiture du voisin.
Ah, vous avez des nouvelles roues?
Oui. Dimitri, je vous remercie. C'est vous qui aurez conclu la discussion. Ne parlons plus que nous disait Dimitri, policier municipal, arrêtons de parler de sentiment d'insécurité. Non. Maintenant, c'est une insécurité qui s'est déplacée, qui est là, qui est ancrée et qui est bel et bien réelle. La troisième heure des GG dans un instant. Guillaume Kasbarian, l'ancien ministre du Logement, qui lance le Parti de la Liberté. C'est le libéral affirmé. On verra s'il a un espace politique. Et puis, que des hommes candidats à la présidentielle en 2027. Est-ce que c'est le club des machos? À tout de suite sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.